Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est le député Nicolas Metzdorf, élu également à la province sud et au Congrès. Nicolas Metzdorf, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation alors que les assemblées de province se réunissaient ce matin pour élire leur président et leur vice-président après, bien sûr, les élections provinciales du 28 juin dernier. Vous avez assisté à cette première assemblée de province sud. 28 élus de la liste Les Loyalistes, le Rassemblement, la réélection de Sonia Backès qui était une formalité comme celle de son bureau. Quelle était l'ambiance et est-ce que ça change quelque chose d'avoir un groupe ultra majoritaire comme ça dans une assemblée de province ?
Eh bien écoutez, pour avoir vécu 2019 avec la tentative de Philippe Gomez de prendre l'assemblée de province à Sonia Backès avec l'éveil océanien et le FLNKS, et où avec Nina Gelier on avait déjoué ce plan-là, ce matin, c'était quand même beaucoup plus serein, voilà, par rapport à 2019. Donc, ça fait du bien. Effectivement, une très, très, très large majorité. Et je remercie encore une fois les Calédoniens qui ont voté massivement pour la liste des loyalistes et du Rassemblement. Mais une grosse majorité à l'Assemblée de province sud ce matin, ce qui a fait que, effectivement, Sonia Backès a été réélue très facilement avec son nouveau bureau.
On va faire un petit tour des autres provinces, puisque c'est l'actualité. Quelle analyse vous faites des résultats dans la province Nord ? Alors, malgré la durée de son mandat, malgré le discours de dégagisme de l'Union calédonienne, Paul Néoutine, dont la liste est arrivée en deuxième position, conserve le fauteuil qu'il occupe depuis 27 ans. C'est un exploit ou c'est grâce à la liste des partisans de la France qui ont voté pour lui ?
C'est grâce à nous. C'est effectivement grâce à la liste agissant ensemble pour le Nord, d'Alcide Ponga, de Vanessa Wakapo, d'Edwin Billet. Pourquoi on l'a fait ? Tout simplement parce qu'on a toujours dit qu'on se battrait corps et âme contre l'UC-FLNKS-CCAT. Nous, on n'a pas oublié les émeutes de 2024, on n'a pas oublié les discours radicaux, on n'a pas oublié les appels à la haine de Christian Théin. Et pour nous, il est inconcevable de laisser les manettes, les institutions à l'UC-FLNKS-CCAT. Donc on s'opposera par tous les moyens à leur présence dans les institutions, démocratiquement bien sûr. Et donc on a plutôt préféré porter nos voix sur Paul Néoutine de l'Union nationale pour l'indépendance, avec qui nous avons travaillé sur Bougival, sur les différents accords. Même si Paul Néoutine y était opposé, évidemment, ça reste quand même, dans la famille non-indépendantiste, le parti le plus modéré, le plus progressiste.
Pascal Savoie, on dit pourtant que parfois, enfin, il a plutôt l'image d'un modéré au sein de l'UC-FLNKS, ça vous semble erroné ?
Oui, mais comme l'était M. Tchibaou. Mais finalement, ce n'est pas les hommes qui comptent à l'UC, c'est l'appareil, c'est le collectif, c'est l'organisation de l'Union calédonienne. Emmanuel Tchibaou, il était très modéré. Et puis finalement, le FLNKS et l'Union calédonienne l'ont pris en main. Et donc, si Pascal Savoie, à titre personnel, ça peut être quelqu'un de modéré, de progressiste, on sait très bien que derrière, tout ce qu'il y a derrière lui, c'est quand même un positionnement très radicalisé pour l'indépendance. Donc, nous, on a fait le choix responsable de placer un parti beaucoup plus modéré avec qui on peut travailler. Il y aura l'élection des vice-présidents la semaine prochaine, on verra ce qui se passe.
Dans la province des îles, enfin, l'Union calédonienne garde la province. C'est Michael Forest qui est élu. Il était face à Omera Neslin. Un commentaire ou est-ce que c'était inévitable de toute façon ?
De toute façon, il est arrivé en tête aux élections. Après, ils font le même nombre de sièges avec Omera Neslin. Moi, ce que je note, c'est que ça peut créer des grosses tensions au sein de la famille du FLNKS, parce que on voit quand même que c'est déjà très tendu avec l'Union nationale pour l'indépendance. Mais là, il y a un nouveau mouvement qui semble éclore, en tout cas, et qui vient de la province des îles, et notamment de l'île de Marais, qui est dynamique autochtone. Et donc, est-ce que ce n'est pas un nouvel acteur dans la famille indépendantiste qui va rajouter de la division au camp indépendantiste ? Nous, pourtant, on est observateurs jusqu'ici de ce qui se passe, et donc on va voir comment ça évolue.
Oui, justement, les partisans de la France ont complètement disparu. Déjà, ça fait plusieurs mandatures qu'ils n'ont pas de siège, mais là, ils ont la liste autonomiste qui était plus ou moins soutenue, enfin, qui était soutenue par les loyers, c'est le Rassemblement, fait très peu de voix. Ça veut dire que vous avez abandonné le terrain ?
Non, je crois qu'on a la mauvaise ligne politique et le mauvais discours. Je crois qu'on ne peut pas se revendiquer d'être un partisan de la France et puis ne pas l'assumer totalement parce qu'on est dans une province à majorité indépendantiste. Moi, je crois que pour optimiser nos voix, pour maximiser nos voix, pour mobiliser l'électorat, il faut avoir un discours clair. Et il y a moyen d'avoir un discours clair sur la province des îles. elle est en cessation de paiement, elle ne vit que grâce aux subsides de l'État et donc de la France. Moi, j'aurais fait un discours offensif en disant c'est grâce à la France aujourd'hui qu'il y a encore une province des îles. Donc je trouve qu'on est trop timoré dans les provinces à majorité indépendantiste.
Voilà, parce que dans la province Nord aussi, vous faites un score qui est en deçà, je crois, de ce que vous souhaitiez. C'est-à-dire qu'avec une seule liste, vous n'améliorez pas votre score par rapport aux deux listes qui étaient présentes aux élections précédentes. Là aussi, vous avez peut-être pas été assez offensif face justement à la politique menée par Paul Néotine.
Je le pense. On aurait dû être plus offensif. Alors moi, je vais pas donner des leçons à nos candidats dans le Nord. Mais en tout cas, à titre personnel, moi, j'aurais voulu qu'on soit plus offensif sur le bilan des indépendantistes en province Nord, la fermeture de l'usine du Nord, l'échec des politiques publiques dans l'économie, hein, avec les sociétés d'économie mixte qui sont tous déficitaires, l'exode quand même vers la province sud depuis 20 ans. Enfin, je pense qu'il y avait des choses à dire et on n'a pas besoin de dire qu'on est d'accord avec lui, surtout. Je crois qu'on peut être respectueux, on peut être démocrate, on peut dire qu'on s'entend bien avec quelqu'un tout en disant qu'on est en désaccord politiquement. Voilà. Et je pense que parfois on confond le fait de bien s'entendre et d'être en désaccord politique.
Alors on va revenir aussi sur les, c'est pas si vieux, hein, sur les résultats des élections provinciales. Dans la province sud, 50,1% des suffrages verts, majorité absolue, 28 sièges sur 40. Est-ce que vous attendiez à une telle victoire? Est-ce que vous, une victoire d'une telle ampleur, ou est-ce que vous avez malgré tout été surpris dimanche soir quand vous avez vu cette déferlante, on a dit?
Pour rien vous cacher, on s'attendait à un peu plus en province nord et à un peu moins en province sud, mais la victoire en province sud est éclatante. C'est incroyable. Enfin, je crois qu'on ne se rend pas compte ce que ça veut dire que 50% des suffrages exprimés en province sud pour une liste qui fait du coup 28 sièges sur 40 à la province. C'est un succès phénoménal, c'est un succès politique comme on n'en a plus connu dans les années 90. Je rappelle les indépendantistes, il y a encore quelques mois, disaient qu'ils allaient prendre la province sud grâce à une majorité d'indépendantistes et du bloc central. Enfin, ils sont quand même très très loin d'avoir réussi ce pari-là. Et ce que je veux dire aussi, c'est que politiquement, qu'est-ce que ça veut dire, cette victoire très large des loyalistes et du Rassemblement? Ça veut dire qu'on a évité l'indépendance association et l'État associé, voulu par certains partis politiques parisiens. Pourquoi? Parce que si on avait eu deux provinces UC, plus une province tenue par un bloc central ou les non-indépendantistes résignés en lien avec le FLNKS en province sud, ça nous aurait amené droit vers l'État associé de DEVA que voulait Manuel Valls. Et là, je peux vous dire qu'à Paris, quand ils ont vu la claque qui a été mise par les loyalistes et le Rassemblement en province sud, ils ont compris qu'en Nouvelle-Calédonie, il y avait encore une large majorité de la population qui voulait que ce pays reste un pays français, bien évidemment, mais un pays démocratique où la justice doit être rendue.
Mais alors, qu'est-ce qui explique cette victoire? Vous allez me dire que vous avez fait une très bonne campagne et que c'est ce qui a mené à ce résultat, mais c'est quoi? C'est l'union que vous avez réalisée déjà, ça a été déterminant? Ou est-ce que c'est le programme? Est-ce que c'est la clarté de votre discours? Vous allez dire, mais certains vont vous reprocher votre radicalité. Alors quels sont les éléments qui font que vous avez obtenu cette victoire exceptionnelle?
Je crois que c'est deux choses qui résument notre slogan fort et uni. C'est-à-dire que les émeutes ont laissé une telle trace d'injustice, quelque part, parce que la justice n'a pas été rendue, à la fois politiquement et à la fois judiciairement. Et quand on a un discours de fermeté comme le nôtre, et qu'on réussit à s'entendre et à s'unir au-delà de nos égos et de nos partis politiques traditionnels, je crois que ça donne une force incroyable aux partisans de la France. C'est ça qui a fait gagner cette liste, c'est-à-dire qu'elle a été ferme sur ce que devait être la Nouvelle-Calédonie en termes de démocratie, de méritocratie, de respect des règles. Et en même temps, cette union très large qu'on n'avait pas réussi à faire depuis très longtemps. Je rappelle que l'Avenir en confiance en 2019, c'est trois partis politiques. Cette fois, c'était quatre partis politiques, les partis les plus structurés des non-indépendantistes. Donc c'est le slogan fort et uni qui a gagné.
Mais malgré le 13 mai, vous en parliez, l'UCFLNKS fait un score qui n'est pas négligeable. Enfin, Sud, elle se maintient en tout cas avec sept sièges. Ça vous a étonné, ou effectivement les indépendantistes sont de toute façon un socle de voix qui feront élection après élection?
Ça ne nous étonne pas parce que aujourd'hui, il y a les trois quarts de la population calédonienne qui vit en province sud. Donc, on s'attache à ce qui se passe dans le nord et dans les îles. Mais quand on a trois quarts d'un pays qui vit dans une seule province, c'est quelque part aussi le pays qui vit dans cette province. Et forcément qu'il y a des indépendantistes, puisqu'ils sont nombreux à l'échelle territoriale. Donc on savait qu'il y avait des indépendantistes en province sud. On a quand même noté, quelque part, une moins bonne mobilisation de leur côté dans leur bureau de vote.
Oui, parce qu'on parle beaucoup de l'abstention, mais en fait, elle est surtout chez les indépendantistes.
Oui, il faut toujours faire attention, parce que des fois, les gens nous disent « Ah, il faut aller voter », etc. Notre électorat vote bien. Notre électorat vote bien. Chez les indépendantistes, quand ils sont déçus de leur leader, ils ne vont pas voter pour Nicolas Mesdorf ou Sonia Backès. C'est une trop grosse transgression. Mais par contre, ils vont rester à la maison. Et c'est ce qui s'est passé. Et le fait qu'ils restent à la maison, c'est aussi quelque part le signe qu'ils sont déçus de la ligne politique du FLNKS, qui leur a vendu Kanaky et la richesse, et finalement ils se retrouvent sans Kanaky, avec plus de pauvreté.
Parmi les enseignements du scrutin en province sud, il y a aussi, vous y faisiez allusion, mais l'effondrement des listes centristes, et notamment la disparition de Calédonie Ensemble. Quelle est votre réaction? Et est-ce que vous revendiquez une part dans l'affaiblissement et la disparition de Calédonie Ensemble, le parti de Philippe Gomès qui a été votre mentor?
Oui, alors, merci pour la pique, Elisabeth Noir. Je vais expliquer.
C'est un rappel historique.
Oui, mais je vais en faire un deuxième, si vous me permettez. Pourquoi j'ai rejoint Philippe Gomès? C'est quand il s'est opposé à la levée du drapeau du FLNKS qu'avaient effectué à l'époque les partisans de la France. Donc moi, j'ai rejoint Calédonie Ensemble à un moment donné où c'était le parti le plus à droite sur l'échiquier. Et je l'ai quitté lorsqu'il a voulu s'associer avec les indépendantistes. Ce rappel étant fait, je crois qu'on peut dire qu'ils ont voulu donner des leçons à tout le monde, qu'on était trop radicaux, qu'on ne savait pas s'entendre avec les indépendantistes, qu'on était incapable de trouver un accord. Or, toutes ces listes-là ont été incapables de s'entendre déjà entre elles. C'est-à-dire qu'ils disent qu'il faut s'entendre avec les opposants politiques, mais déjà avec ceux qui leur ressemblent, ils n'arrivent pas à se rassembler. Et donc on voit bien que la politique, c'est quelque chose de sérieux. On ne peut pas sortir à 15 jours d'une élection et se présenter comme le Messie. La politique, c'est quelque chose de sérieux, ça demande du temps, ça demande de la présence régulière, pas qu'en période électorale, ça demande des positionnements politiques sur plusieurs sujets, ça demande du terrain, une proximité avec les Calédoniens, et ça demande aussi une hauteur de vue sur les alliances qu'on doit faire. Vous voyez, nous, on aurait pu tous tirer une liste, hein, dans le camp des partisans de la France. J'aurais pu tirer une liste, le Rassemblement aurait pu tirer sa liste, mais ce qui compte, c'est pas les personnes, c'est le combat que l'on mène. Et je crois qu'ils se sont trop attachés aux personnes, et ils l'ont payé dans les urnes.
Alors, est-ce que le centre existe ou non? Parce qu'on avait, dans les mois qui avaient précédé l'élection, un certain nombre de commentateurs prévoyaient l'émergence d'une voie centrale en Nouvelle-Calédonie. Finalement, le seul parti plus ou moins centriste qui sauve les meubles, c'est l'Éveil océanien, qui a aussi la réputation quand même d'être d'être un parti communautaire. Alors, ça veut dire quoi? Il y a un centre en Nouvelle-Calédonie ou en fait, il n'y en a pas?
Il n'y a pas de centre, parce que qu'est-ce qui définit la politique calédonienne? C'est pour ou contre l'indépendance. Et donc, à un moment donné, on ne peut pas être au milieu. Parce que soit la Nouvelle-Calédonie devient indépendante, soit elle reste dans la France. C'est quoi la question, concrètement, technique? Est-ce que vous voulez que les compétences régaliennes soient transférées à la Nouvelle-Calédonie? C'est ça qui fait qu'on devient indépendant ou pas? Est-ce que la Nouvelle-Calédonie gère l'armée, gère la police, gère la justice, gère la monnaie et gère les relations internationales? Si on répond oui à ça, on est indépendantiste. Si on répond non à ça, on est non-indépendantiste. Donc le centre, ça veut dire quoi? C'est un peu la France qui fait, c'est un peu la Nouvelle-Calédonie qui fait. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Soit il y a des partis non-indépendantistes modérés qui sont dans l'alliance avec les indépendantistes, soit il y a des partis indépendantistes modérés qui sont dans l'alliance avec les loyalistes, mais on ne peut pas être centriste entre la France et l'indépendance. C'est pas possible, c'est une question binaire.
Alors, au Congrès maintenant, vous avez 24 sièges sur 54. Là aussi, certains diront que c'est pas assez parce que c'est pas la majorité, mais c'est aussi un score qui est quand même assez remarquable.
On est le plus gros groupe du Congrès. Enfin, je veux dire, l'UC fait 16 sièges. On en fait 24. On est de loin le plus gros groupe du Congrès. On manque, rendez-vous compte, pour une seule liste de 4 sièges, la majorité absolue au Congrès. Mais c'est un exploit.
Qui mathématiquement est impossible.
En fait,
vous aviez dit pendant la campagne, on va être majoritaire au Congrès, mais c'était pas possible.
Je disais qu'il fallait aller essayer de chercher cette majorité. Et quand on se fixe un objectif ambitieux, c'est comme ça qu'on mobilise l'électorat. Si on dit aux gens, « Oh, ben vous savez, de toute façon, c'est foutu, etc. » Mais dis donc, dans la vie, il faut se battre. Et je pense que si on n'avait pas, si on s'était pas fixé cet objectif-là politiquement, on aurait fait moins de sièges. C'est comme ça que les gens se sont beaucoup mobilisés. Et merci, parce que on est que à 4 sièges de la majorité absolue. Et c'est comme ça qu'on peut obtenir une majorité, par exemple, si on discute bien avec l'éveil océanien. Sinon, on aurait laissé les indépendantistes gouverner. Ce que je veux dire par là, c'est que qu'est-ce qui fait qu'on manque ces 4 sièges aussi, il faut quand même le rappeler. Pardon, mais c'est la répartition des sièges qui pénalise la province sud. Il faut moins d'électeurs dans les îles et dans le nord pour avoir des sièges au Congrès qu'en province sud. Si on avait une répartition équitable, un homme, une voix, un homme, une voix, un siège au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, on serait majoritairement absolu. On serait en majorité absolue. Donc, qu'on ne vienne pas me dire que notre score au Congrès est mauvais, ce n'est pas vrai.
Mais on va vous dire en affichage, les indépendantistes tous regroupés, ils ont 26 sièges ou 24.
Mais c'est quoi les indépendantistes
regroupés ? Est-ce que ça veut dire qu'ils sont majoritaires ou non ?
Mais ça veut dire quoi les indépendantistes regroupés ? Moi, il faut qu'on arrête de les regrouper d'ailleurs. Je rappelle que l'UNI a quitté le FLNKS parce que l'UNI était pour une discussion sur Bougival quand le FLNKS était pour l'indépendance radicale. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que l'UNI fait partie du bloc indépendantiste comme l'est le FLNKS ? Pourquoi on donne 26 sièges aux indépendantistes ? Moi, je ne crois pas. Je crois qu'aujourd'hui, quand on parlait de centristes tout à l'heure, ou de progressistes ou de modérés, ils sont plutôt du côté indépendantiste. Nous, en tout cas, les 24 sièges, vous savez, ils sont clairs. Hein, c'est la Calédonie française, point barre.
Oui, mais ça ne fait pas une majorité. Alors, est-ce que vous êtes en discussion ? Est-ce que vous pouvez en dire quelque chose ? L'éveil océanien a 4 sièges, les indépendantistes... Les différents blocs indépendantistes, si on les regroupe, ça fait 26. Même si je suis d'accord avec vous, ils ne sont pas forcément unis, même loin de là. Est-ce que c'est encore l'éveil océanien qui va jouer les charnières et est-ce qu'il y a un risque que, comme lors de la mandature précédente, ils changent de camp au gré des dossiers, de leurs humeurs
Écoutez, moi, je ne suis pas Madame Irma. Évidemment qu'il y a toujours un risque avec une assemblée où il n'y a pas de majorité absolue. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que nous, on essaye de discuter et de trouver des solutions de réforme pour la Nouvelle-Calédonie avec l'éveil océanien. Voilà. Je ne vais pas en dire plus parce que, évidemment, je ne veux pas que ça cause des problèmes dans la négociation, mais je crois qu'on est d'accord sur le fait que les élections sont passées, la campagne a eu lieu, nos institutions calédoniennes, provinces, congrès et gouvernement seront en place pour 5 ans, on sort d'émeutes qui ont détruit notre pays. Je crois que maintenant, il faut qu'on se mette à travailler et à prendre les mesures nécessaires à la relance de l'économie. Et ça, sur ce constat-là, et ce besoin-là, on est d'accord avec l'éveil océanien. Donc ce qui compte maintenant, c'est quelles sont les mesures de réforme, de relance et de reconstruction qu'on va prendre ensemble. C'est de ça dont on discute aujourd'hui.
Donc c'est une majorité de relance ou une majorité de reconstruction, comme on a dit, plus qu'une majorité de projet, et puis c'est pas une majorité politique.
Enfin, en tout cas, c'est pas une majorité institutionnelle. Sur la question institutionnelle, parce qu'on sait que l'éveil océanien est dans ce fameux nini dont on parlait tout à l'heure. Nous, notre position, il est très clair sur l'avenir institutionnel. Mais une fois qu'on traite l'institutionnel, comme on est très autonome et qu'on est compétent quasiment en tout, hein, en fiscalité, en économie, en sécurité sociale, en santé, en enseignement, en environnement, il faut quand même qu'on parle de tout ça aussi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que l'institutionnel dans la vie, même s'il prend une place prépondérante. Et donc, il faut qu'on parle de tout ça et de qu'est-ce qu'on fait avec ça.
Et la majorité que vous pourriez trouver au Congrès, évidemment, aurait des conséquences sur la majorité au gouvernement. Ça vous permettrait de faire la
même
alliance.
Oui, parce que ça se décline. Il faut que le législatif, qui est le Congrès, son pendant exécutif qui est le gouvernement. Sinon, ça ne sert à rien d'avoir un gouvernement qui n'a pas de majorité au Congrès, sinon on dépose des textes au Congrès qui ne sont pas votés.
Avec une telle majorité, en revanche, à la province sud, l'avantage, c'est que vous pourrez mettre en œuvre le programme sur lequel vous avez été élu.
Ah ben là, normalement, normalement ça va bien coulisser, je pense que...
Il n'y aura pas trop d'opposition ?
Ah, je ne crois pas, non.
Alors on va vous dire, est-ce que vous allez prendre des mesures... redresser un peu la barre, puisqu'on vous a reproché à la province sud de ne pas venir assez en aide aux plus démunis. Est-ce que ça va être l'un des axes de reconstruction de la politique provinciale ?
Non, mais nous, on n'est pas un mouvement de gauche. Hein. Non, mais je sais qu'en France, on a l'habitude de gagner les élections à droite et de gouverner à gauche. Alors nous, on les gagne à droite et on gouverne à droite. Hein. Donc on ne fait pas des programmes de gauche. Nous, en fait, on considère que d'abord, il faut aider les entreprises, les chefs d'entreprise et leurs salariés à créer de la richesse, à créer de l'emploi, avant de redistribuer quelque chose qui peut-être n'existe pas si on ne le fait pas. Et donc, avant de dire qu'on va distribuer des mesures sociales dans tous les sens, on va d'abord permettre aux entreprises et aux Calédoniens de regagner de l'argent. Voilà. Et une fois qu'on aura fait ça, on verra s'il nous reste suffisamment de sous pour faire des mesures sociales. Je crois que c'est quand même clair dans notre programme politique que c'est notre vision des choses. Et il faut respecter les électeurs. On a tendance dans notre pays à jamais vouloir respecter le choix des électeurs. Ils votent 3 fois pour la France, on est encore en train de discuter de savoir si on ne devient pas indépendant. Ils votent à droite pour une élection provinciale, il faudrait qu'on fasse un programme de gauche. Alors non, là-dessus, il ne faut pas compter sur nous.
Les discussions sur l'avenir institutionnel, en revanche, vous y faisiez allusion, mais alors, ça se présente comment ? Le Premier ministre avait dit juillet, ça va être compliqué, puisqu'il faut encore installer le Congrès, le gouvernement. Le mois d'août, sont les vacances en métropole. Est-ce qu'il vous a déjà laissé entrevoir un calendrier ? Et qui serait autour de la table ? Est-ce que des discussions vont pouvoir reprendre ?
Écoutez, on a eu quelques contacts avec l'Élysée, avec Matignon, avec quelques ministres et quelques députés qui nous ont dit « Bon, alors, comment on reprend les discussions ? Est-ce qu'on relance Bougival, etc. ?» On leur a dit « Mais enfin, on ne va pas encore travailler pour rien. C'est-à-dire que vous allez nous réunir, on va discuter d'institutionnel, on va mettre 15 jours, 3 semaines dans une nouvelle commune qui portera le nom du nouvel accord à essayer de trouver des équilibres. On va aller devant l'Assemblée nationale et on va se faire shooter comme la dernière fois parce qu'il n'y a pas de majorité. Donc ce qu'on vous propose en fait, c'est d'attendre gentiment les élections présidentielles de 2027. Si vous nous invitez pour faire le point, on va venir parce qu'on est poli et républicain. Mais ne comptez pas sur nous pour aller faire des concessions qui peuvent être aggravées par une Assemblée nationale que personne ne contrôle. Donc on va attendre 2027, le prochain président de la République, la prochaine Assemblée nationale, et on discutera à ce moment-là. Et nous, en attendant, on va se concentrer à relancer la machine économique ici.
Donc très clairement, on fait une pause institutionnelle, on fait une pause sur les réformes institutionnelles en disant on verra ça plus tard. C'est ce qui vous paraît la meilleure politique à suivre.
C'est pas notre volonté. Si demain, on pouvait trouver un accord que l'Assemblée nationale l'entérine, comme on l'a discuté, on y va tout de suite. Mais enfin, pardon, mais on a fait le dégel à 10 ans, où il y avait l'accord de M. Ouamitan et de M. Tudjigoro. L'Assemblée nationale l'a rejeté. On a fait Bougival. L'Assemblée nationale l'a rejeté. On a fait les conjoints et les natifs. L'Assemblée nationale a refusé les conjoints. Donc vous savez quoi, on n'est pas maso. Hein. Moi, je veux bien être chrétien, mais je ne suis pas Jésus. Hein. Je ne vais pas tendre la joue tous les jours. Donc voilà.
En attendant, il y a deux de vos collègues LFI, Bastien Lachaud, Mathilde Panot, vous les connaissez bien, vous ferraillez avec eux régulièrement à l'Assemblée nationale, qui arrivent sur le territoire. Ils font leur travail de parlementaire ou c'est de la provocation ?
Déjà, je leur souhaite bienvenue en France. Bienvenue en France, Bastien. Bienvenue en France, Mathilde. Vous êtes ici sur le territoire de la République et sur le territoire de députés de la nation. Et c'est parce que la Calédonie est française que des députés de la nation française peuvent venir sur le territoire national aux frais de la nation et du contribuable métropolitain. Et donc je trouverais dommage que mes deux collègues, qui sont des députés donc, de la République, viennent remettre en cause l'intégrité du territoire de la République en essayant de vendre la Nouvelle-Calédonie aux Chinois ou à toute autre puissance émergente. Voilà. Ce trait d'humour étant fait, je crois évidemment que tout ça fait partie d'une stratégie pour les élections présidentielles de ramasser l'électorat indépendantiste radical, parce que vous savez que le RN va être au deuxième tour, ils sont quand même en très large avance, hein, que ce soit Marine Le Pen ou Jordan Bardella dans les sondages. La question qui se pose, c'est qui sera au deuxième tour face au Rassemblement national ? Donc on voit qu'il y a plusieurs candidats, Bruno Retailleau, Édouard Philippe, peut-être même François Hollande, et Jean-Luc Mélenchon. Et donc la bataille, c'est qui va être deuxième derrière le Rassemblement national. Donc chaque voix compte. Et vu le positionnement de la France insoumise sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, ils vont compter sur l'électorat indépendantiste.
C'est un positionnement qui, chez Jean-Luc Mélenchon, est un peu nouveau. C'est uniquement... jusque-là, il était un peu prudent sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, mais depuis quelques mois, il y va très franchement. C'est électoraliste uniquement ?
Oui, je pense que c'est électoraliste. Parce que... Jean-Luc Mélenchon est théoriquement jacobin, c'est-à-dire qu'il veut quand même un pouvoir central depuis Paris sur l'ensemble des territoires ultramarins. Mais je crois que, vu l'électorat indépendantiste du FLNKS, il compte ses voix, donc on ne peut pas faire autrement.
Vous-même, député, vous gardez bien sûr votre mandat, vous êtes également conseiller de la Pointe Sud, conseiller du Congrès, vous arrivez à tout faire ou vous déléguez un peu certaines choses ?
En fait, je m'occupe surtout de l'Assemblée et un peu du Congrès. L'Assemblée de province, on est tellement majoritaire que je n'ai pas besoin de m'investir plus que ça. En plus, il y a de super nouveaux élus qui nous accompagnent tout jeune, Naya Wateu, qui est reconduite évidemment, mais qui a une grosse expérience, Kael Normandan, Nicolas Yamamoto, Loïc Bassé, le nouveau vice-président de la province. Donc il y a une jeune génération qui arrive à l'Assemblée de province et qui va pouvoir gérer les affaires de la province. Donc c'est vrai que je vais me concentrer sur mon travail de l'Assemblée nationale et sur le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Je précise déjà aux auditeurs que je ne cumule pas les indemnités, c'est interdit. Voilà.
Je ne vous avais même pas posé la question.
Oui, mais au cas où.
Nicolas Merzoff, merci d'avoir accepté votre invitation dans ce magazine Transparence.